Oui, Seigneur Jésus, nous te remercions parce que comme nous l'avons chanté, en toi nous avons accès à Dieu et au Saint-Lieu. C'est par ton sang versé, ton sang rédemptrice. Et Seigneur Jésus, nous t'avons demandé et te redemandons par cette prière que nous marchions dans le chemin que tu nous as frayé. Et pour cela, tu nous donnes ta parole et aussi ton esprit pour nous guider. Et nous te remercions pour cela. Et Seigneur Jésus, si nous avons accès au Saint-Lieu, nous devons aussi reconnaître et confesser que nous sommes bien peu conscients de ta sainteté et de la sainteté de Dieu le Père. Et tu peux aussi nous montrer comment nous plus attacher à toi. Et Seigneur Jésus, merci pour cette réunion que tu nous donnes de nouveau. Tu peux aussi aider le ou les frères qui interviendront. Tu peux aider pour parler, tu peux aider pour écouter. Nous te remettons aussi ceux parmi nous, ici présents, qui seraient peut-être pas encore convertis ou qui seraient justement sur des chemins de perdition ou des chemins égarés. Toi, tu peux parler au cœur et aux consciences. Et nous te remettons aussi tous ceux qui auraient bien aimé venir et qui ont été empêchés. Et te remercie encore une fois pour cette réunion et par toi aussi, Dieu notre Père. Amen.
Amen.
On pourrait lire dans l'Évangile selon Luc, au chapitre 23. Luc, chapitre 23, on pourrait lire à partir du verset 32 jusqu'au verset 47. Et deux autres aussi, qui étaient des malfaiteurs, furent menés avec lui pour être mis à mort. Et quand ils furent venus au lieu appelé Crâne, ils le crucifièrent là, et les malfaiteurs, l'un à la droite, l'autre à la gauche. Et Jésus dit, « Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. » Ayant fait le partage de ses vêtements, ils tirèrent au sort. Et le peuple se tenait là, regardant. Et les gouverneurs aussi se raillaient de lui avec eux, disant, « Il a sauvé les autres, qu'il se sauve lui-même, si lui est le Christ, l'élu de Dieu. » Et les soldats aussi se moquaient de lui, s'approchant et lui présentant du vinaigre, et disant, « Si toi, tu es le roi des Juifs, sauve-toi toi-même. » Et il y avait aussi au-dessus de lui un écriteau en lettres grecques, romaines et hébraïques, « Celui-ci est le roi des Juifs. » Et l'un des malfaiteurs qui était pendu l'injuriait, disant, « N'es-tu pas le Christ, toi? Sauve-toi toi-même, et nous aussi. » Mais l'autre, répondant, le reprit, disant, « Et tu ne crains pas Dieu, toi, car tu es sous le même jugement. Et pour nous, nous y sommes justement, car nous recevons ce que méritent les choses que nous avons commises. Mais celui-ci n'a rien fait qui ne se dût faire. » Et il disait à Jésus, « Souviens-toi de moi, Seigneur, quand tu viendras dans ton royaume. » Et Jésus lui dit, « En vérité, je te dis, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. » Or, il était environ la sixième heure, et il y eut des ténèbres sur tout le pays, jusqu'à la neuvième heure. Et le soleil fut obscurci, et le voile du temple se déchira par le milieu. Et Jésus, criant à haute voix, dit, « Père, entre tes mains, je remets mon esprit. » Ayant dit cela, il expira. Et le centurion, voyant ce qui était arrivé, glorifia Dieu, disant, « En vérité, cet homme était juste. » Alors, dans les versets que nous venons de lire, il est question de trois personnes crucifiées, de trois croix. Et on pourrait essayer de considérer un petit peu chacune de ces trois personnes crucifiées et s'interroger sur le sens, la valeur de la crucifixion de chacune de ces personnes et de ce qui s'est passé en fait sur chacune de ces trois croix. Alors, il est clair que il y a au centre des trois croix, il y a d'abord celle du Seigneur Jésus. Et puis, à côté, à droite et à gauche, il y a deux malfaiteurs qui sont crucifiés avec lui. Alors, d'abord, peut-être, considérons un peu la croix centrale, la croix où a été crucifié notre Seigneur. Et alors, bien sûr, quand on parle de la croix de notre Seigneur et de ce qui s'est passé sur cette croix, c'est un sujet infini, d'une profondeur immense. Et on ne prétend pas faire le tour du sujet, on ne peut pas le faire tellement c'est infini. Mais essayons de nous arrêter un moment et de nous poser quelques questions, d'abord en rapport avec la croix du Seigneur Jésus. Et quand on pense donc à la croix du Seigneur Jésus et donc à Jésus-Christ crucifié, on peut aborder ce sujet, il me semble, de trois points de vue. On pourrait d'abord voir la croix du Seigneur Jésus sous le point de vue des hommes qui l'ont crucifié, du monde qui l'a crucifié. Et on pourrait donc d'abord se poser cette question, mais pourquoi les hommes l'ont-ils crucifié? Et alors, bien sûr, il nous faut lire les évangiles, la parole de Dieu, mais on voit que le Seigneur Jésus a été haï des hommes. Et je pense en particulier à un verset dans l'évangile de Jean au chapitre 15 où il dit voilà, verset 24 au milieu. Mais maintenant, ils ont et vu, et haï, et moi, et mon Père. C'est un verset qui est sérieux, et qui montre, en fait, c'est le Seigneur qui parle et qui dit que, en fait, les hommes au milieu desquels il est venu en grâce, eh bien, ils l'ont haï, ils l'ont vu, et haï. Et en le voyant et le haïssant lui, il dit, ils ont aussi et vu et haï mon Père. Donc, c'est un premier aspect de la réponse. Pourquoi les hommes ont crucifié le Seigneur? C'est parce qu'il y avait dans le cœur des hommes, dans nos cœurs naturels, une haine contre Dieu. Et ce qui est d'autant plus frappant, et on le voit dans le verset cité en Jean 15, c'est que Dieu a envoyé son propre Fils. Et son Fils a été la révélation parfaite de l'amour de Dieu, de la lumière de Dieu. Et quand même, les hommes l'ont haï. C'est pas comme si Dieu avait envoyé susciter un prophète qui parlait de sa part avec ses qualités et ses défauts. Et on aurait pu dire, ah mais étant donné les défauts de ce prophète, eh bien, on peut comprendre que les hommes n'ont pas aimé Dieu. Non. Dieu a donné son Fils, la révélation parfaite de lui-même, et ils ont haï. Et lui et son Père. Et ça peut paraître simpliste de parler comme ça, mais c'est quelque chose de très important. Et de voir que, en fait, avec la croix du Seigneur Jésus, il y a un événement marquant, capital, dans l'histoire de l'humanité. C'est l'homme, les hommes, qui rejettent Dieu complètement, définitivement, on pourrait dire, et qui n'en veulent pas. Et qui le montrent de la manière la plus terrible qui soit, en crucifiant, en mettant à mort celui qui est la parfaite révélation de Dieu. On voit aussi dans les évangiles qu'il y avait de la jalousie, de l'envie de la part des Juifs. Il est dit qu'il l'avait livré par envie. Mais sans trop développer cet aspect, retenons que la croix de notre Seigneur Jésus, c'est le moment, le lieu où les hommes ont montré ce qu'ils étaient, réellement. Pécheurs et sans aucune envie de Dieu, avec une haine vis-à-vis de Dieu. Et on a lu dans le verset 38 de Luc 23, on a vu que au-dessus de la croix du Seigneur, il y avait un écriteau en lettres grecques, romaines et hébraïques, celui-ci est le roi des Juifs. Et donc on peut penser qu'il y avait trois écritures sur cet écriteau. Celui-ci est le roi des Juifs. Donc écrit en trois langues différentes. Et ce qui est solennel, c'est que, en fait, avec ces trois langues différentes, c'est comme si c'était les hommes dans leur ensemble qui mettaient à mort le Seigneur Jésus, le Fils de Dieu. Les Grecs, la langue grecque, c'était plutôt le monde intellectuel. Les philosophes, les penseurs, les gens intelligents, on pourrait dire, entre guillemets. Avec les Romains, c'était le monde militaire, C'était la puissance civile, ceux qui gouvernaient. C'était ceux qui dominaient, effectivement, le monde aussi politique. Et avec la langue hébreu, c'est, on pourrait dire, le monde religieux. Les hommes religieux. Eh bien, quel que soit l'homme, on va dire qu'il soit plutôt un philosophe, qu'il soit plutôt un religieux, qu'il soit plutôt un homme politique, un militaire ou que sais-je, eh bien, en fait, il n'y a pas tellement de différence entre tous ces genres d'hommes. Ils ont tous mis à mort le Seigneur Jésus. Ils n'en veulent plus. Et c'est quelque chose qui est important de réaliser, en fait, et on le voit bien dans ce contexte de la croix du Seigneur Jésus, que il y a deux, on pourrait dire, deux mondes différents. Il y a le côté de Dieu et le côté de l'homme sans Dieu. Et le monde sans Dieu, c'est-à-dire le monde dans lequel nous vivons, c'est-à-dire le système du monde avec toutes ses pensées, ses idéologies, et faisons attention parce que nous baignons là-dedans, chaque jour, en écoutant les médias, en regardant les journaux, que sais-je, on est en fait dans ce monde-là, et soyons attentifs et vigilants, parce que c'est un monde en fait qui rejette Dieu, qui a crucifié notre Seigneur Jésus, et qui ne veut pas de Dieu. Et donc soyons en garde et soyons vigilants en rapport avec tout ce que nous pouvons entendre, voir, lire, écouter, qui vient d'hommes qui mettent Dieu de côté. Et l'autre monde, on pourrait dire, c'est le monde divin, de Dieu. Et il y a ce contraste, par exemple, dans l'épître de Jean, où il y a d'un côté le monde et d'un autre côté le Père. Et nous sommes enfants de Dieu ou nous sommes enfants du diable. Nous appartenons à Dieu ou nous appartenons au monde. Donc c'est un premier aspect, donc, considérer la croix du Seigneur Jésus du point de vue des hommes, où on voit ce rejet et cette haine. Si, peut-être de façon plus heureuse, si on considère la croix du Seigneur Jésus du point de vue de Dieu le Père, qu'est-ce qu'on peut dire? On peut dire que à la croix, on voit Dieu sous un double aspect. On voit Dieu qui, d'un côté, dans sa sainteté, dans sa justice, parce que le Seigneur Jésus, pendant les trois heures, de la sixième à la neuvième heure, ce qu'on appelle les heures des ténèbres, où il y a eu, comme on voit au verset 44, des ténèbres sur tout le pays, donc les heures de ténèbres, le Seigneur Jésus a été sous le jugement de Dieu, à cause de nos péchés. Le Seigneur Jésus, pendant ces trois heures, a pris sur lui nos péchés, et il en a enduré le jugement de la part de Dieu. Donc Dieu se manifeste à la croix comme le Dieu saint, le Dieu juste qui doit punir le péché dans toute sa sainteté. Et quand on lit, par exemple, dans le psaume 22, les sentiments du Seigneur Jésus qui fait face au jugement de Dieu et à la sainteté de Dieu, on est impressionné par cette majesté de Dieu, cette sainteté de Dieu. Mais il y a aussi, de la part de Dieu à la croix, il y a le côté de l'amour de Dieu. Dans ce sens, qu'il donne, qu'il offre une victime, un sacrifice, pour que les hommes puissent être pardonnés. Et on a lu ce matin dans Genèse 22, et avec ce beau verset, Dieu se pourvoira de l'agneau pour l'Holocauste. Et on peut dire qu'à la croix, Dieu donne l'agneau pour l'Holocauste. Dieu donne l'agneau pour le sacrifice. Et il donne son propre fils. Il ne peut pas donner quelque chose de plus grand, de plus précieux. Il donne son propre fils à la croix. Et on peut aussi citer ce verset de Romains 8 qui nous dit, Romains chapitre 8, verset 32, « Celui-même qui n'a pas épargné son propre fils, mais qui l'a livré pour nous tous. » Donc on voit à la croix, dans la croix de notre Seigneur Jésus, on voit l'amour de Dieu qui donne son Fils unique. Pour les hommes, mais pour quels hommes ? Pour des hommes qui sont des ennemis, des hommes qui sont mauvais, qui sont méchants. Eh bien Dieu donne quand même pour ces hommes son propre Fils en sacrifice pour que ces hommes puissent être pardonnés, justifiés, et amené jusqu'à lui. Alors c'est très faible ce que je dis, mais prenons le temps de considérer la croix de notre Seigneur Jésus. Non seulement du point de vue des hommes, qu'est-ce qu'ils ont fait, mais du point de vue de Dieu le Père. Qu'est-ce qui se passe en fait à la croix du point de vue de Dieu ? Il donne son propre Fils en sacrifice. Et on voit aussi toute la manifestation de sa sainteté et de sa justice. Et troisièmement, si on voit, on regarde à la croix du Seigneur de son point de vue à lui. Le point de vue du Seigneur Jésus. Qu'est-ce qu'on peut dire ? Alors là aussi, il y a un infini à dire. Mais en quelques mots, on pourrait dire que d'un côté, on voit son obéissance parfaite. Dans ce sens que c'était la mission que Dieu lui avait donnée. Il avait été envoyé pour accomplir cette œuvre. Et on voit qu'il va jusqu'au bout. Il sait exactement ce qu'il attend et rien ne l'arrête. Il va jusqu'au bout, même si intérieurement comme on le voit au jardin de Gethsémané, il est saisi d'effroi. Mais il ne recule pas, et il va jusqu'au bout et il peut dire au jardin de Gethsémané, « La coupe que le Père m'a donnée, ne la boirai-je pas ?» Donc on voit dans la croix l'obéissance du Seigneur Jésus jusqu'à la mort. Quoi qu'il en coûte, jusqu'à la mort, il fait la volonté de Dieu. Au prix de sa vie et au prix du jugement qu'il va endurer de la part de Dieu pendant les 3 heures de ténèbres. Et donc, en même temps que cette obéissance parfaite, on voit son amour parfait. Comme il est dit, par exemple, en Galates 2, verset 20, l'apôtre Paul dit « Le Fils de Dieu m'a aimé et s'est livré lui-même pour moi. » Et donc si on regarde à la croix du Seigneur Jésus, on y voit son amour. Celui qui nous a aimés, chacun de nous, et qui l'a montré en se donnant pour nous. Il s'est livré lui-même pour moi. Il s'est livré lui-même pour nous. Et est-ce que ce sont des sujets qui nous occupent, qui occupent nos pensées, nos cœurs ? Eh bien, ce sont des sources de méditation inépuisables. Et puis il y a un autre aspect qu'on peut mentionner dans la mort du Seigneur Jésus, c'est le côté, dans la croix du Seigneur Jésus, c'est le côté de sa volonté, volontaire. Dans ce sens que ce ne sont pas les hommes qui sont plus forts que lui et qui le mettent sur une croix, mais c'est lui qui se laisse prendre, qui se laisse faire et qui se laisse crucifier. Et on le voit au jardin de Gethsémané, je mentionne juste en Jean chapitre 18, on voit en fait quand les hommes viennent l'arrêter pour le crucifier, que dans un premier temps, quand il dit aux hommes « Qui cherchez-vous ?» Et ils disent « Jésus le Nazaréen » et il dit « C'est moi » et tous les hommes tombent par terre devant lui. En Jean chapitre 18, au début, premier paragraphe. Et en fait, on voit que personne ne pouvait mettre la main sur lui, personne ne pouvait l'arrêter, parce qu'il était le Fils de Dieu. Mais il s'est laissé faire, il s'est laissé prendre. Et comme il dit, en Jean chapitre 10, il dit, « Personne ne m'ôte la vie, mais c'est moi qui la donne. Et on voit ici, dans Luc 23, dans les versets que nous avons lus, que quand il meurt, verset 46, c'est Jésus criant à haute voix, dit « Père, entre tes mains, je remets mon esprit ». Et un crucifié ne meurt jamais de cette manière-là. Un crucifié, normalement, il meurt d'épuisement. Il n'a plus de souffle, il s'étouffe et il meurt. Mais lui, notre Seigneur, avant de remettre son esprit, c'est lui qui remet son esprit, on le voit crier à haute voix. Il a encore toutes ses forces, tout son souffle. Et donc on voit par là que ce n'est pas une mort d'épuisement, comme si les hommes lui ôtaient la vie. Mais c'est lui qui la donne. Et il a encore toutes ses forces et il remet son esprit entre les mains de Dieu. Alors c'est là aussi simplement quelques mots du côté du Seigneur Jésus. Cette obéissance jusqu'à la mort, son amour jusqu'à la mort. Et aussi ce côté qu'il était, il était maître des circonstances. Mais il s'est laissé faire, comme un agneau muet devant ceux qui le tondent. Et on voit d'ailleurs qu'au verset 47 que nous avons lu, que le centurion, qui certainement en avait vu d'autres des crucifiés, là il a été stupéfait devant ce qu'il a vu, et il a dit « En vérité, cet homme était juste ». Personne, il en avait vu des morts, mais des morts de cette manière-là, il n'en avait jamais vu. Et il dit ici « Cet homme était juste » dans un autre évangile, il dit « Cet homme était certainement le Fils de Dieu ». Et donc ce centurion a rendu témoignage devant la mort de notre Seigneur sur la croix, que c'était une mort exceptionnelle, unique. Et il a donné lui-même sa vie. Donc je répète ce que on a dit tout à l'heure. Il a été, pour les enfants, le Seigneur Jésus, il a été sur la croix pendant 6 heures. De la 3e heure jusqu'à la 9e heure. Dans les 3 premières heures, de la 3e à la 6e, les hommes l'ont injurié, on l'a provoqué, et il s'est tu. Il n'a rien dit, il a baissé la tête devant toutes les insultes, les provocations. Et à partir de la 6e heure, eh bien, comme il est dit, il y a eu des ténèbres, tout est devenu noir, obscur. Et jusqu'à la 9e heure, pendant 3 heures. Et pendant ces 3 heures-là, le Seigneur Jésus a enduré la colère de Dieu contre les péchés, contre le péché. Et il n'est plus question là des provocations et des insultes des hommes, mais du jugement de Dieu. Et à la 9e heure, à la fin de la 9e heure, le Seigneur a remis son esprit. Il a dit « c'est accompli » et puis peu après, il a remis son esprit entre les mains de Dieu. Il est entré dans la mort. Donc on pourrait dire, voilà quelques pensées, quelques remarques sur la croix du milieu, la croix de notre Seigneur Jésus. Et je répète, il y a infiniment plus à dire, à méditer, et c'est un sujet qui est ouvert pour chacun de nous. Ensuite, on pourrait dire quelques mots sur les deux brigands. Et on a vu donc qu'il y avait deux brigands, deux malfaiteurs aussi, ils sont appelés, qui étaient crucifiés, un à la droite et un à la gauche du Seigneur Jésus. Et si on lit les différents évangiles, et en particulier dans Matthieu en tout cas, il est dit que au début des heures de la crucifixion, que les deux l'injuriaient. Donc les deux brigands, les deux malfaiteurs, injuriaient le Seigneur Jésus. Et puis on a lu dans Luc 23, quelque chose qu'on ne lit que là, qui n'est pas rapporté dans les autres évangiles, quelque chose qui s'est passé entre ces deux malfaiteurs. Et donc, il y avait un des deux malfaiteurs qui a injurié le Seigneur Jésus, et qui a continué, on va dire, à l'injurier. Et puis, à un moment, verset 39 de ce qu'on a lu, Il a dit, n'es-tu pas le Christ, toi ? Sauve-toi toi-même et nous aussi. Donc c'était certainement des meurtriers, ces hommes. Il me semble que ceux qui étaient crucifiés en général étaient des meurtriers. Mais peut-être que je me trompe. Donc c'était des hommes méchants. C'était des hommes durs, cruels. Et ce premier malfaiteur injurie le Seigneur Jésus et il dit, mais n'es-tu pas le Christ, toi ? Le Christ, c'est-à-dire le Messie, loin, celui que Dieu avait choisi. Et il lui dit, ben, sauve-toi toi-même et nous aussi. Il était, on va dire, un petit peu pragmatique. Il se disait, ben, on ne sait jamais, s'il est le Messie, autant lui demander qu'il se sauve et nous aussi. Je mets toutes les chances de mon côté. Mais on voit en fait, chez lui, aucun travail dans son cœur, aucun changement. Il reste dur devant Dieu et il assiste à la mort du Fils de Dieu et il ne semble pas plus ému que ça, touché, travaillé dans sa conscience, dans son cœur. Et il va mourir quelques minutes, quelques heures après, mais sans qu'il y ait aucun changement dans son cœur. Il a injurié le Seigneur, il a mis au défi de se sauver et de les sauver, mais pas de changement dans son être intérieur. Et on peut penser que cet homme est mort, là, quelques minutes, quelques heures après, et il est entré dans les malheurs, dans les tourments éternels. Il a vécu sans Dieu, et il est mort sans Dieu. Il est perdu pour l'éternité. Terrible. Terrible quand on pense au sort de ces hommes, et là, on parle d'un seul. Mais combien il y a d'hommes dans le monde qui vivent sans Dieu, qui meurent sans Dieu? Et voilà un homme qui entre dans le malheur, dans les tourments éternels. Il a eu le sauveur du monde à peut-être un mètre de lui, et il est resté sourd, aveugle, et il n'a pas ouvert son cœur. Sa conscience n'a pas été touchée. Et c'est peut-être, on a demandé dans la prière que si quelqu'un était ici encore incrédule, quelqu'un ne s'était pas encore converti, mais qu'il ne suive pas cet exemple de cet homme qui a eu le sauveur du monde à un mètre de lui et qui est resté indifférent, fermé, et qui va connaître les tourments éternels. Et c'est quelque chose qui n'est pas agréable à dire, mais c'est un avertissement. Ceux qui ne se convertissent pas, ceux qui ne se repentent pas, ceux qui ne croient pas au Fils de Dieu, eh bien, ils vont connaître la condamnation éternelle. Et on ne peut pas tenir d'autres langages, d'autres discours. Et pourtant, la grâce leur est offerte encore aujourd'hui pour nous, que si quelqu'un était dans cet état-là, qu'il se repente et qu'il croit au Fils de Dieu, au crucifié du milieu. Et puis, il y avait l'autre crucifié, le troisième. Et celui-là, c'est une histoire qui est bouleversante. On voit que, au début, on le voit dans les autres évangiles, je le répète, il semble qu'il insultait aussi le Seigneur avec l'autre crucifié. Mais là, dans le paragraphe des versets 39 à 43, on voit un changement qui se produit. Comme on a dit, le premier crucifié continue à insulter, injurier, mettant le Seigneur au défi de se sauver et de les sauver. Mais l'autre, verset 40, répondant, le reprit, disant, « Et tu ne crains pas Dieu, toi ?» Et donc dans cet autre malfaiteur, cet autre crucifié, on voit quelque chose de merveilleux. C'est un changement qui s'est produit à l'intérieur. Et on ne sait pas bien dire comment les choses se sont produites. Mais on voit le résultat, le fruit. C'était un malfaiteur qui était, il le dit lui-même, crucifié pour de bonnes raisons. Mais Donc ça avait été un homme certainement dur, cruel et certainement un meurtrier. Mais là, il change. Il change au dernier moment. Et il va porter un regard lucide sur les choses. Et il va dire quelques paroles, on va essayer de les considérer quelque peu, et des paroles extraordinaires. Et on peut se demander, mais qui c'est qui lui a enseigné tout ce qu'il a dit? Et donc, il dit d'abord à l'autre, il parle d'abord à l'autre crucifié, et il lui dit ceci, « Et tu ne crains pas Dieu, toi ?» C'est quelque chose, une phrase qui est touchante. Il a la crainte de Dieu, lui. Qu'est-ce que c'est la crainte de Dieu? Ben, on pourrait penser que c'est avoir peur de Dieu. Non, ce n'est pas avoir peur de Dieu. Mais c'est réaliser qu'on est sous le regard de Dieu et qu'on a affaire à Dieu. Et que Dieu est grand, Dieu est juste, Dieu est saint. Et on ne se comporte pas n'importe comment devant Dieu. Il y a un respect, une révérence devant Dieu. Une crainte de Dieu. Et ça, c'est vrai, et ça devrait être vrai aussi de nous, les croyants. Aimer Dieu, l'amour de Dieu et la crainte de Dieu. Et il y a beaucoup de versets dans l'Ancien, dans le Nouveau Testament, qui nous parlent en bien de cette crainte de Dieu. Et là, on voit que il dit, et tu ne crains pas Dieu. Il dit, comment? Toi, avec tout ce que tu as fait, avec tout ce que tu as commis, tu oses parler comme ça au Seigneur. Tu ne le crains pas. Tu ne crains pas Dieu. Tu oses parler comme tu le fais. Avec tout ce que tu as fait. Et donc, on voit que dans son cœur à lui, certainement, il y a eu la crainte de Dieu. Et il dit, toi, tu es sous le même jugement. Toi, tu es crucifié aussi, comme lui, comme moi. Et nous y sommes justement, car nous recevons ce que méritent les choses que nous avons commises. Ça, c'est aussi un très beau verset. C'est la repentance ou le jugement de soi-même. Et ça aussi, la repentance, c'est quelque chose qu'il ne faut pas négliger et qui est très importante. C'est repentir, ça veut dire en fait changer de pensée. Mais c'est pas je pensais comme ça avant, maintenant j'ai changé de pensée, je pense différemment. C'est changer de pensée dans ce sens que maintenant, je me vois tel que je suis dans la lumière de Dieu. Et je porte un jugement sur moi. Je ne me fais plus d'illusions. Je me vois dans la lumière de Dieu et je me condamne dans la lumière de Dieu. Je sais ce que je suis devant Dieu, coupable. Et c'est ce qu'il dit. Il dit à son compère, nous y sommes justement, car nous recevons ce que méritent les choses que nous avons commises. L'homme naturel, il a toujours tendance à se justifier. Et on pense à, par exemple, à Adam et Ève dans le jardin. Tout de suite, je mets la faute sur l'autre. Ah, mais c'est la femme que tu m'as donnée. Ah oui, mais il y avait ceci, cela. On trouve toujours une excuse pour justifier ce que nous avons fait. Mais là, le brigand, il ne cherche aucune excuse. Il dit, nous y sommes justement, nous recevons ce que méritent les choses que nous avons commises. Il se repent. Il confesse ce qu'il a fait, ce qu'il est, ce qu'il mérite. Aucune prétention devant Dieu. Je reçois les choses que je mérite. Et il dit cela à l'autre crucifié. Mais, la suite, il dit, « Mais celui-ci, Jésus-Christ, n'a rien fait qu'il ne se dût faire. » Donc il se voit tel qu'il est dans la lumière de Dieu, et étant dans la lumière de Dieu, il peut dire que lui, Jésus-Christ, il est innocent. Lui, il est saint, et s'il est crucifié, lui, il ne le mérite pas. Il n'a rien fait qu'il ne se dût faire. Il n'a pas commis de péché. Il n'a pas connu le péché. Le péché n'était pas en lui. Et c'est ce brigand qui rend témoignage à la justice parfaite du Seigneur. Celui-ci n'a rien fait qu'il ne se dût faire. Moi, je mérite ce qui m'arrive. Je suis crucifié, je reçois ce que méritent les choses que j'ai faites. Mais lui, à côté de moi, il n'a rien fait qu'il ne se dût faire. Il se voit tel qu'il est dans la lumière de Dieu, et il voit Jésus-Christ tel qu'il est dans la lumière de Dieu. Et puis, il se tourne maintenant vers Jésus et lui adresse la parole au verset 42 et lui dit « Souviens-toi de moi, Seigneur, quand tu viendras dans ton royaume. » Et c'est un très beau verset. Parce qu'en fait, on voit dans ce verset, dans cette phrase, tout ce que cet homme avait compris. Il avait compris que Jésus pouvait se souvenir de lui. Que, en quelque sorte, Jésus pouvait décider quelque chose à son sujet. Et il avait compris que Jésus allait revenir. Et il avait compris que Jésus allait revenir pour régner. Et on pourrait dire qu'il avait compris que Jésus était Seigneur, mais j'insiste pas là-dessus parce que, d'après les différentes traductions et les manuscrits, le terme Seigneur n'est pas forcément dans le texte original. Donc, on n'insiste pas sur cet aspect. Mais il dit, en tout cas, « Souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton royaume. » Donc, voilà ce qu'il avait compris, cet homme. Que le Seigneur pouvait décider quelque chose à son sujet. Et donc, il lui demande de se souvenir de lui. Il avait compris qu'il allait revenir et qu'il allait régner. Et il lui fait cette supplication. Et il reçoit une réponse merveilleuse, verset 43. Jésus lui dit, en vérité, je te dis, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Donc le brigand, il demande quelque chose en vue du royaume à venir, dans un avenir plus ou moins lointain. Et le Seigneur, dans sa réponse, il lui parle pas de l'avenir, il lui dit aujourd'hui. Et il lui parle pas de son royaume tel qu'il aura sur la terre, mais il lui parle du paradis céleste, et on peut dire quelques mots après sur le paradis. Et il lui dit, tu seras avec moi. Donc aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Aujourd'hui, pas dans plusieurs années. Tu seras, il y a la certitude des paroles du Seigneur. Tu seras avec moi, dans ma compagnie, et dans le paradis, dans une atmosphère, dans un environnement de délices et de bonheur. Voilà ce que le brigand repentant reçoit de la part du Seigneur Jésus. Et c'est un encouragement. Et l'Évangile est annoncé encore aujourd'hui à tous les hommes, de croire, de se repentir et de croire au Seigneur Jésus. Et la bénédiction sera la même que celle pour ce brigand. L'assurance d'être éternellement avec le Seigneur Jésus dans le paradis. Et encore une fois, si quelqu'un ne s'était pas décidé pour le Seigneur Jésus, qu'il soit touché par l'attitude de ce brigand qui confesse ce qu'il est, ce qu'il a fait, et qui se tourne vers le Seigneur Jésus comme un suppliant, et qui reçoit une réponse de grâce et d'assurance et de certitude. Tu seras avec moi dans le paradis. Et encore quelques minutes, j'aimerais donner quelques remarques en rapport avec le paradis. Donc là, on voit que le paradis, dans le monde oriental, c'était le jardin de délices, le lieu de délices. Et cette expression, donc, elle désigne en fait le lieu ou l'atmosphère en fait dans laquelle l'homme croyant qui meurt, l'atmosphère que l'homme croyant qui meurt va rejoindre. Tu seras avec moi dans le paradis. Et c'est intéressant de voir, et peut-être que ça peut encourager ceux qui ont des proches qui sont partis, qui sont décédés. On voit que il y a 3-4 allusions dans le Nouveau Testament sur ce que les morts connaissent comme bénédiction après leur mort. On peut citer, ce sont des versets qui sont très connus, dans Philippiens au chapitre 1, le Seigneur, Paul parle au verset 23, « Ayant le désir de déloger et d'être avec Christ, car cela est de beaucoup meilleur. » Donc, il décrit la portion de ceux qui sont délogés, décédés, qui changent de domicile et qui quittent la terre pour le ciel, pour la présence du Seigneur. Et donc, il utilise cette expression « déloger et être avec Christ ». Cela est de beaucoup meilleur. En 2 Corinthiens, au chapitre 5, 2 Corinthiens, chapitre 5, au verset 8, l'apôtre parle d'être, nous aimons mieux être absent du corps et être présent avec le Seigneur. Et puis, dans le même épître, au chapitre 12, l'apôtre parle du paradis et il dit ceci. Verset 2, donc 2 Corinthiens 12, 2. Je connais un homme en Christ qui, il y a 14 ans, si ce fut dans le corps, je ne sais. Si ce fut hors du corps, je ne sais. Dieu le sait. Je connais un tel homme qui a été ravi jusqu'au troisième ciel. Je connais un tel homme, verset 4, qu'il a été ravi dans le paradis et a entendu des paroles ineffables qu'il n'est pas permis à l'homme d'exprimer. Et puis, dans Apocalypse, chapitre 2, il est dit, Apocalypse 2, verset 7, « À celui qui vaincra, je lui donnerai de manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. » Donc, si on recoupe un petit peu ces versets-là qu'on vient de lire, on voit, en Luc 23, le Seigneur dit au brigand, tu seras avec moi dans le paradis. Tu vas mourir, tu vas quitter la terre. Tu as été jugé justement. Le Seigneur n'interfère pas avec le jugement qu'il a reçu. Mais dorénavant, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Et là, on voit le Seigneur qui dit « avec moi dans le paradis ». Avec Jésus dans le paradis. Dans Philippiens, il est dit « être avec Christ ». En 2 Corinthiens 5, il est dit « être présent avec le Seigneur ». Et donc, c'est intéressant de voir dans ces trois versets, on est avec le Seigneur, mais il y a les trois aspects de sa personne différents. Luc 23, on pourrait dire « avec Jésus ». Philippiens, « avec Christ ». Et 2 Corinthiens 5, « avec le Seigneur ». Et ça nous fait toucher un peu du doigt que la part de ceux qui sont déjà décédés, elle est quand même merveilleuse. Ils sont avec Jésus, l'homme Jésus, celui qui est venu sur la terre, qui a pris le nom de Jésus. Ils sont avec Christ. Christ, c'est le nom de sa gloire. C'est l'homme céleste, l'homme qui a été élevé au ciel et qui est assis à la droite de Dieu. Comme il est dit en Actes 2, verset 36, Dieu a fait Seigneur et Christ, ce Jésus que vous avez crucifié. Donc Christ, c'est l'homme ressuscité, l'homme glorifié. Et donc, ceux qui décèdent sont avec Christ. Et ils voient l'homme glorifié, l'homme béni, l'homme céleste. Et en 2 Corinthiens 5, il est dit être présent avec le Seigneur, celui qui a toute autorité. Et ces différents mots qui sont utilisés qui nous montrent en fait la bénédiction de ceux qui sont déjà décédés. Avec Jésus, avec Christ, avec le Seigneur et dans le paradis. Et on a lu dans 2 Corinthiens 12, l'apôtre Paul, alors je passe le contexte de 2 Corinthiens 12, mais l'apôtre Paul qui dit qu'il a eu une expérience extraordinaire et unique, c'est qu'il a été élevé dans le troisième ciel. Et après, en parlant de cette expérience, il dit le troisième ciel, et après il dit, j'ai été dans le paradis de Dieu. Et c'est le même lieu, la même atmosphère. Et il dit, dans le paradis de Dieu, j'ai entendu des paroles ineffables qui n'est pas permise à l'homme d'exprimer. Et ça nous montre aussi quelque chose de merveilleux, c'est qu'il y a dans le paradis, avec notre Seigneur, Jésus-Christ, il y a des communications ineffables, bénies, qu'on ne peut pas connaître, nous, étant sur la terre. On n'en a pas la capacité. On n'en a pas la capacité. Et dans le ciel, il y a, dans le paradis, dans la présence du Seigneur, il y a ces communications ineffables, délicieuses, que l'on peut entendre dans la présence du Seigneur Jésus. Et puis, il y a Apocalypse 2 qui nous parle du paradis de Dieu encore et qui nous dit que dans le paradis de Dieu, il y a l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. Et c'est un sujet qui est beau. Et si on veut comprendre un petit peu ce que ça veut dire, il faudrait d'un côté se rappeler que dans le jardin d'Éden, il y avait, donc c'était un jardin de délices sur la terre, il y avait des arbres, et en particulier deux. Il y avait l'arbre de la connaissance du bien et du mal, dont il était interdit de manger, et il y avait l'arbre de vie, qui était au milieu du jardin. Et ces deux arbres, en fait, nous montrent deux aspects, de façon un peu abstraite, de la manière d'agir de Dieu, c'est qu'il y a d'un côté notre responsabilité, l'arbre de la connaissance du bien et du mal dont il ne fallait pas manger. Il y avait une responsabilité de l'homme associé. Et de notre côté, il y avait l'arbre de vie qui nous parle de la bénédiction que Dieu veut donner aux hommes. C'était dans le jardin d'Éden. Et puis, si on va, je ne veux pas être trop long et m'aventurer dans des considérations trop longues, mais si on va dans Apocalypse 22, au début du chapitre, Apocalypse 22, on voit quelque chose de plus. Alors là aussi, je passe sur le contexte immédiat de ces versets, d'Apocalypse 22, les cinq premiers versets. Mais on pourrait dire que c'est une description plus détaillée du paradis de Dieu. Pourquoi je dis ça? Parce qu'en fait, on y retrouve l'arbre de vie, et Apocalypse 2, verset 7 nous dit que l'arbre de vie est dans le paradis de Dieu. Et accordez-moi, s'il vous plaît, encore 2-3 minutes, et pour 2-3 remarques sur ces versets. Donc Apocalypse 22, « Et il me montra un fleuve d'eau vive, éclatant comme du cristal, sortant du trône de Dieu et de l'agneau. Au milieu de sa rue, et du fleuve, de ça et de là, était l'arbre de vie, portant 12 fruits, rendant son fruit chaque mois. » Et verset 3, « Il n'y aura plus de malédiction, et le trône de Dieu et de l'agneau sera en elle, et ses esclaves le serviront, et ils verront sa face, et son nom sera sur leur front. Il n'y aura plus de nuit, ni besoin d'une lampe et de la lumière du soleil, car le Seigneur fera briller sa lumière sur eux, et ils régneront au siècle des siècles. » Juste 2-3 remarques. L'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. Et là, on a la description de la sainte cité, et on a la description intérieure de la sainte cité, donc qui est les bénédictions célestes qui sont à venir pour nous. Et on voit que dans cette sainte cité, il y a un fleuve d'eau vive qui sort du trône de Dieu et de l'agneau, et qui a l'arbre de vie. Et donc, ça nous montre que dans cette fontaine, dans ce fleuve d'eau vive, ce fleuve d'eau de la vie, il y a une bénédiction éternelle pour nous. Et on pourrait dire que nous qui avons la vie éternelle et qui l'aurons dans le ciel, dans le paradis de Dieu, eh bien, il y aura là, dans le paradis de Dieu, ce fleuve d'eau vive qui viendra toujours rafraîchir la vie éternelle que nous avons reçue. Et on pourrait dire par là que la vie éternelle que nous avons reçue est une vie dépendante de Dieu. On n'a pas la vie éternelle indépendamment de Dieu, mais en connexion, en liaison avec Dieu. Et il y aura dans le paradis de Dieu ce fleuve d'eau vive qui viendra toujours rafraîchir et alimenter la vie éternelle que nous avons reçue. Et il y aura aussi cet arbre de vie qui est la personne du Seigneur Jésus, qui sera la nourriture des croyants dans le paradis de Dieu. Et puis, il y a trois expressions qu'on peut souligner sur la bénédiction des croyants dans le paradis de Dieu. Donc, verset 3, ses esclaves le serviront, la bénédiction de servir le Seigneur dans le paradis de Dieu. Et quand on pense au service, on pense souvent au service que nous avons à accomplir sur la terre. Eh bien là, c'est une pensée qui est peut-être un peu rare, un peu moins connue, mais on voit le service vis-à-vis du Seigneur, vis-à-vis de Dieu, dans le paradis de Dieu. On n'entre pas plus dans le détail, on n'a pas le temps, mais il est dit, ils verront sa face et son nom sera sur leur front. Ils verront sa face, dans le paradis de Dieu, nous verrons sa face. C'est l'intimité, la proximité, et nous verrons le Seigneur tel qu'il est. Et son nom sera sur leur front, c'est-à-dire que le nom du Seigneur sera sur nous, dans le paradis de Dieu, ce qui montre que nous sommes sa propriété, et ce qui montre aussi que nous reflèterons sa gloire. Son nom sera sur nos fronts, il pourra voir, il pourra lire sur nous quelques reflets de sa gloire à lui. Et ce sont des versets qui sont peut-être pas souvent médités, pas souvent considérés, mais qui sont d'une grande beauté, d'une grande richesse, et il me semble qu'ils sont une description de ce qu'est le paradis de Dieu, avec l'arbre de vie au milieu. Et donc voilà, c'était juste une petite parenthèse à côté de notre sujet pour décrire ce qu'est le paradis de Dieu. Mais revenons donc à notre sujet des crucifiés, des trois croix, et finissons sur cette note. Le brigand repentant qui se juge dans la lumière de Dieu reçoit cette promesse: aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis.
Une très très courte pensée en fait par rapport à ce malfaiteur dont nous avons lu quelques lignes au verset 39. L'un des malfaiteurs qui était pendu l'injurier disant: n'es-tu pas le Christ, toi, sauve-toi toi-même et nous aussi. Notre frère nous a rappelé quelle était la part de ce malfaiteur maintenant, et c'est solennel de le rappeler. S'il y en a qui n'ont pas accepté le Seigneur Jésus comme leur sauveur personnel dans leur cœur, qui n'ont pas reconnu leur faute, qui n'ont pas accepté le Seigneur Jésus comme sauveur, comme substitut, comme nous avons pu le rappeler ce matin, n'auront pas leur place dans le paradis. Et je voudrais aussi avoir une pensée pour peut-être toi, jeune du rassemblement, ou jeune qui est dans ce local, qui un jour a accepté le Seigneur Jésus. Alors peut-être que tu ne te souviens pas de ce jour-là, peut-être tu t'en souviens. Et je voudrais avoir une petite pensée pour toi, jeune, qui un jour a accepté le Seigneur Jésus comme ton sauveur personnel, Tu as reconnu tes fautes. Et comme on peut le lire dans le livre du prophète Ésaïe, au premier chapitre, « Venez et plaidons ensemble, dit l'Éternel, si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont rouges comme l'écarlate, ils seront comme la laine. » J'ai envie de te dire, écoute cette parole que le Seigneur Jésus a dit à ce deuxième brigand. « En vérité, je te dis, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. » Il a confessé, c'est le brigand repentant, sa place est dans le paradis maintenant. Il est sauvé pour l'éternité. Je t'invite à jouir, toi jeune qui a accepté un jour le Seigneur Jésus comme ton sauveur personnel, à avoir la certitude de ton salut. Ton nom est écrit dans le livre de vie, personne ne pourra jamais l'enlever. Aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Et puis si un jour ce doute arrivera, il y a toujours cette petite voix qui vient et qui dit quoi ? Dieu a dit, regarde tout ce que tu as fait comme faux pas. Puis regarde ce que tu fais encore aujourd'hui. Ta place est dans le ciel. Aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Si tu as accepté le Seigneur Jésus comme ton sauveur personnel, ta place est dans le paradis. Rien ne repose sur toi. C'est lui qui a tout fait à la croix. C'est le Seigneur Jésus qui a donné son sang. Et c'est lui qui a tout fait pour toi. Et si ce doute arrive, et ce doute arrivera, ne est-il pas arrivé à chacun d'entre nous un jour ? Ne doute absolument pas de ton salut. Et je t'invite alors dans ce cas-là à lire un court passage qu'on peut lire ensemble maintenant dans l'évangile de Matthieu au chapitre 7. On va juste simplement dire quelques lignes. Chapitre 7, verset 24. « Quiconque donc entend ces miennes paroles et les met en pratique, je le comparerai à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. Et la pluie est tombée, et les torrents sont venus, et les vents ont soufflé, et ont donné contre cette maison. Et elle n'est pas tombée, car elle avait été fondée sur le roc. » Elle n'est pas tombée. Tu as donné ton cœur au Seigneur Jésus, le Seigneur Jésus a fait son œuvre est parfaite, ta place est prête. Personne ne pourra les ravir de sa main. Je t'invite au quotidien, jour après jour, à jouir de ton salut. Ce n'est pas un pass pour faire n'importe quoi, c'est pas ça l'objet du tout. C'est d'avoir la certitude de ton salut. Personne ne pourra les ravir de sa main. La maison résistera. Et enfin, je voudrais un dernier passage aussi, parce qu'on a lu un passage notre fois, nous en avons lu un dans l'Épître aux Romains. Je voudrais qu'on y retourne très très rapidement, on terminera par ce passage. L'Épître aux Romains au chapitre 8, et le premier verset, « Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont dans le Christ Jésus. » Nous puissions jouir au quotidien de l'assurance de notre salut.
Et dans ce même chapitre de l'Épître aux Romains, dernier verset, je suis assuré, avant-dernière ligne, que rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu qui est dans le Christ Jésus, notre Seigneur. Rien ne peut nous séparer de son amour, de sa présence, de sa personne, ni de son amour.
Chantons aussi le 261. Nous pouvons le chanter comme un cantique d'appel, mais nous pouvons aussi le chanter comme un cadeau que nous faisons à nos enfants en leur rappelant ces choses, ces vérités. Nous pouvons aussi le chanter comme un souvenir qu'on se rappelle pour le mettre devant tous les soucis de ces semaines qui sont, de ces pas qui sont dans la bonne vie. Et surtout que nous chantions comme ce flot jaillissant de nos cœurs, de tout ce que le Seigneur est pour nous.
261.
Yeah. Seigneur Jésus, nous te remercions de ce que nous avons pu considérer un peu ces heures pendant lesquelles tu étais sur la croix, par amour pour nous, par amour pour Dieu ton Père. Et avant d'entrer dans les heures ténébreuses, tu as eu cet entretien avec les brigands. Et un des deux s'est repenti. Il a confessé qu'il avait fait commis des péchés. Et il a, pour ainsi dire, demandé pardon. Et quelle promesse merveilleuse as-tu pu faire en lui disant « Aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis ». Seigneur Jésus, tu étais juste devant ces souffrances indicibles, devant l'abandon de Dieu, ces heures ténébreuses, mais dans ton amour, tu as pensé encore à ce brigand qui s'est approché de toi. Et tu lui as promis qu'il serait avec toi dans le paradis encore aujourd'hui. Et quelle joie pour ton cœur aussi de penser que lui, le brigand converti, c'est un fruit du travail de ton âme, que tu as pu déjà voir avant de mourir. Donc, Seigneur Jésus, nous te remercions pour ce sacrifice merveilleux que tu as accompli pour notre salut sur la croix et pour la gloire de Dieu. Et nous te remercions aussi pour cette perspective que nous avons. Bientôt, nous serons dans ton paradis, nous pourrons voir ta face. Seigneur Jésus, et ton nom sur nos fronts. Quelle perspective merveilleuse. Et veux que nous en réfléchissions plus de ces bénédictions que tu nous as données. Et nous voulons te demander encore une fois pour tous ceux qui ont été touchés, qui ont entendu ton évangile. Nous en avons parlé cet après-midi aussi, qu'ils se convertissent, qu'ils font face demi-tour et qu'ils t'acceptent comme leur sauveur personnel. Seigneur Jésus, nous te remercions pour ta parole, pour la bénédiction de ta parole et nous nous remettons entre tes bonnes mains pour notre chemin de retour. Amen.
Amen. Amen.